Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous avez passé une belle journée. On va passer un excellent 60 minutes, puisqu'encore une fois, ce soir, il est de retour, le célèbre Jean Nadeau. À chaque fois qu'on entend parler de lui, les gens disent « Mais c'est qui, Jean Cazot? » Jean Cazot, Jean Nadeau, le conférencier. C'est parce que j'ai parlé à Jean juste avant l'émission, fait que ça m'était resté dans la tête. Mais Jean Nadeau, c'est un conférencier, un gars que vous entendez régulièrement sur les zones de boulevard. Un gars avec qui j'ai pris une retraite une fois. J'ai adoré, soit dit en passant. On en reparlera peut-être à la fin de l'émission. Jean Nadeau, salut!
Salut Yannick, ça va bien?
Ouais, pourquoi tu fais réagir de même, toi? T'as châle le monde, quoi?
Ben, en fait, tu sais, je fais une couple de fois que je l'explique un peu partout, là, mais... au lieu de caresser le bouton, j'ai décidé de le péter, moi.
Ah!
Ouais, ouais. Tu sais, au lieu de dresser, de faire un beau petit tableau, là, puis de vendre l'idée aux gens qui peuvent vivre dans la ouate, puis en écoutant Yanni, puis en se faisant des tisanes de
avec
de,
ses cheval blanc.
Des tisanes de testicules de babouin, là. J'ai décidé, moi, de travailler plus sur le mal. Je pense que les gens travaillent beaucoup plus fort à se sortir du malaise, de l'inconfort, que de caresser le bouton et dire « Ah, oh, je suis bien. » Donc, et puis, j'ai pas décidé vraiment de faire ça. C'est ce qui a fonctionné pour moi.
Ouais.
Moi, je change quand ça va pas bien. Quand j'ai le nez dans la boîte, j'aime pas ça, puis je change.
Ah, t'as tellement raison. En même temps, c'est contraire à la nature humaine.
Oui, tout à fait.
T'sais, ce que tu me dis là, c'est contraire à la nature humaine, parce que l'être humain a toujours fait en sorte de travailler extrêmement fort pour avoir la vie la plus douce possible, mm-hmm. puis avoir besoin de moins travailler, mais que les ressources soient plus présentes. Puis parfois, on se rend compte qu'on a... on a des petits cailloux en dessous de nos pieds.
Le but
on
ultime.
Dit, ah, ben, je vais le tolérer parce que sinon, il faudrait que je travaille plus fort encore pour enlever ce caillou-là.
Mais c'est ça. Le but ultime, là, qu'on caresse le bobo ou bien non, qu'on gratte dedans, le but ultime, c'est d'être heureux. T'sais, oui, moi aussi, je profite du bon temps. Mais au lieu de mettre ça en dessous du tapis quand ça va mal, j'ai décidé de l'aborder, de l'accueillir, de prendre ma part de responsabilité qu'il y a de là-dedans, puis voir qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, puis de passer à d'autres choses après, parce que la prochaine chose inconfortable va venir assez vite.
Ouais, je vais t'en poser des questions inconfortables, Jean Nadeau.
Vas-y.
Y a-t-il encore de la place pour les hommes comme toi?
C'est quoi un homme comme moi?
Y a-t-il encore de la place pour les gens qui disent les choses telles qu'elles devraient être dites? Puis je te donne un exemple comme ça, tu sais, c'est arrivé il y a de ça quelques jours, mais le futur premier ministre du Canada, Pierre Poilievre, qui était bien fâché, qui parlait d'immobilier, d'accès à la propriété ou d'accès au logement, qui avait ciblé deux personnes qu'il considérait comme étant incompétentes, et là, à la grandeur du Québec. Ça n'a pas de sens cibler des gens, dire qu'ils sont incompétents. Et moi, d'entendre ça puis dire, t'es peu, là, c'est parce que peut-être qu'ils sont incompétents, mais démontrez-moi qu'ils sont compétents. Démontrez-moi que Pierre Poilievre, par son affirmation, il a tort. Et les gens n'ont jamais fait l'exercice. Et au contraire, quand on regarde les statistiques, Québec, Montréal, on se rend compte qu'au niveau de l'accessibilité au logement, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Puis quand on parle avec les hommes et les femmes d'affaires qui en ont des édifices à logement puis qui ont plein de projets, ils disent « Ben moi, c'est la ville qui me bloque à Montréal. Moi, c'est la ville qui me bloque à Québec. Mm-hmm. » Ben c'est qui les incompétents?
Ouais.
Ils n'ont pas été contents d'être ciblés. Donc des gars comme toi, puis il y a des femmes aussi qui sont comme toi, qui disent les choses... qui ne passent pas par 25 chemins. Ils disent, regarde, moi, voici ce que j'ai à dire, voici la façon dont je vois les choses, puis qui ne se soucient pas des gens qui pourraient leur tirer des missiles sur la tête. Y a-t-il encore une place pour...
Je pense que le problème se situe au niveau de la société qu'on est... pas qu'on est en train, qu'on s'est donné, parce qu'on est carrément dedans, cette société qui castre les gens du politiquement correct.
Donc, t'es pas castré.
Non. Décastrez-vous, mesdames et messieurs. Non, mais on est dans le politiquement correct. Il faut toujours aller dans le sens du vent. Il faut plier comme le roseau pour être à peu près comme tout le monde. Il faut utiliser de nouveaux termes. Je fais souvent la blague. Puis c'est drôle parce que je parlais avec un monsieur dernièrement qui est malentendant. Et justement, j'ai dit...
Il devait avoir de la misère à jaser.
Non, mais tu sais, il faut dire maintenant que les gens qui sont sourds sont malentendants. Il y en a qui sont malentendants parce qu'ils entendent mal. Mais il y en a d'autres qui sont sourds, ils entendent pas.
Ouais.
Ils entendent pas mal, ils sont sourds. Donc, on vit dans ce contexte, dans cette société du politiquement correct, et ça fait en sorte aussi qu'on a peur à exprimer nos jugements. On peut juger. Ne jugez pas l'individu, ton gars, il jugeait pas l'individu comme tel, il jugeait le comportement des individus. On peut juger le comportement, les paroles des gens, les actions des gens, si elles viennent à l'encontre de nos valeurs. Et on peut le dire. Arrêtez de faire vos vierges offensées là, qu'on peut pas juger. Vous le faites à tous les jours, à tous les quatre ans, vous le faites. Vous jugez un politicien, vous votez pour lui. Vous avez jugé une femme plus qu'une autre ou un homme plus qu'un autre, c'est devenu votre conjoint. On fait ça à tous les jours, mais de nos jours, à cause du politiquement incorrect, il faut faire ça là, dans le salon, en dessous du tapis, à pas trop déranger personne.
Mais tu sais quoi, en journaliste d'enquête très sérieux que je suis, j'ai commencé à sortir des cotes aux municipales, aux provinciales, puis aux fédérales. Puis quand tu les écoutes entre eux, groupe d'opposition, exemple, ils s'ostinent tout le temps, puis ils se traitent toujours d'incompétents l'un et l'autre. C'est particulier quand même. Mais comme c'est un gars qui commence à être en montée dans l'Ouest canadien, puis qu'on est probablement certain que c'est lui qui va être premier ministre du Canada prochainement, ben les gens un peu plus à gauche l'aiment pas, lui, parce qu'il est un peu plus de droite économique. Donc là, c'est un ennemi à abattre. Puis comme il a dit les choses comme il pensait, ben ça semblait avoir outré ben des gens, alors que ça se dit régulièrement un peu partout. Puis tu sais quoi? Dans notre vie, là, on va tous l'atteindre, ce petit principe de Peters-là, dans certaines facettes. De Peter, pas Peters, mais Peter. C'est que ton taux de... ton expérience que t'as, les skills que t'as, à un moment donné, là, tu vas monter les échelons. Puis à un moment donné, mais tu vas t'apercevoir que le mur est beaucoup trop haut, puis t'es plus capable. Puis là, t'as atteint ton seuil d'incompétence. Oui, mais ça, là, des fois, en tant que père, tu sais quoi? Je l'atteins en hostie, mon seuil d'incompétence. Parce que des fois, je ne suis plus capable de voir se chamailler, puis se taper dessus, puis chigner, puis après ça, il se revêt. Puis là, ben au lieu d'être un bon père qui va dire « Hey, mon petit Guillaume, tu devrais faire ci ou faire ça », je lève le ton parce que je suis tanné. Ouais. Fait que j'ai atteint mon seuil de compétence parentale, puis là, ben, je suis obligé d'avoir de l'aide d'un gorille pour que mes gars arrêtent de se taper dessus. On va tout pogner ce seuil-là.
C'est sûr.
Puis je comprends pas pourquoi les gens étaient outrés de se faire dire qu'ils étaient incompétents. Je veux dire, c'est le maire d'une ville. Le gars, il étudie, en philosophie. Qu'est-ce qu'il connaît à l'immobilier, faire grandir une ville et tout ça? Je comprends pas pourquoi il était
outré. De toute façon, quand tu es incompétent, là, quand tu te mets à tête sur l'oreiller, tu le sais que tu l'es.
Un autre exemple. Peut-être que c'est dans les médias québécois, mais je lisais une chronique et je me rendais compte que l'individu qui faisait sa chronique, Jean, c'était une personne qui aimait mieux avoir un président des États-Unis qui dit bien les choses puis qui fait rien versus un président des États-Unis qui fait des choses, puis qui dit des choses, puis qui parle mal.
Ouais.
Mais t'as peu, tu veux quelqu'un qui s'exprime bien, mais qui fout rien, versus un gars qui parle mal, qui pousse peut-être trop loin le bouchon, mais qui, concrètement, en 4 ans, a fait pas mal plus de choses que bien des présidents des États-Unis.
Rares sont les politiciens qui sont bons assis et debout. Debout, à bien parler, il y en a plein. Assis là, en arrière d'un bureau, ils vont-tu bien gérer? Pas certain.
Ouais.
Puis il y en a d'autres qui sont assis, extraordinaires, puis debout, sont pourris. La bombe, il était pourri debout. T'sais, il était pas un bon communicateur. Il avait la gueule debout, puis ça. Mais assis, il était pas si pire que ça, dépendant des jours. Trudeau, il est très bon debout, assis.
Quand un homme démontre sa colère, tu sais, on a un exemple dans les médias dans les derniers jours, tellement un triste exemple, puis tu sais quoi, je ne condamne à rien là-dedans, je trouve juste ça triste que ça arrive, puis je connais pas l'histoire au complet, puis parfois quand on est sans ressources, qu'on a tout essayé, des fois on est excédé, puis on dit des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ce père de famille qui a décidé que l'intimidation envers ses enfants, c'était terminé, puis il s'est rendu à l'école... puis qui a brassé un jeune d'une façon inappropriée, puis qui a dit au jeune « je vais t'enterrer ». Tu sais, on s'entend tous pour dire que ça n'a pas de bon sens, mais à un moment donné, tu sais plus quoi faire, tu sais. T'es fâché, puis là, t'essaies de mettre les points CI et les barres CT avec les jeunes qui sont responsables de l'intimidation envers ton enfant, et là, ce gars-là, il est mal vu comme pas possible, alors que... il a juste été humain, là. Il était écœuré.
Il y a une portion de ça qui a été humain, puis je vais te donner mon point de vue là-dessus. Là. Premièrement, je suis très bien placé pour parler d'intimidation parce que ce qui me donne le droit de parler d'intimidation, c'est quand j'étais ticu, j'étais un intimidateur. J'étais celui qui intimidait. J'étais plus grand, plus gros, j'intimidais. Pourquoi? Parce que j'avais une faiblesse. J'étais faible. Donc, j'allais chercher ma force dans l'intimidation que je faisais auprès des autres. Donc, ça me donne le droit d'en parler. Puis, deuxièmement, aujourd'hui, ben, mon fils est victime d'intimidation. Fait que ça me donne le droit d'en parler. Tu sais, on l'a mentionné souvent quand je viens de voir l'émission. l'ensemble de mon approche comme conférencier, mon message se résume à une fois, je parle du sens des responsabilités, moi, dans la vie, votre vie est de votre faute. Bien, vos enfants aussi sont de votre faute. Ce qu'on leur donne comme outil aujourd'hui, c'est ça qui va créer la fondation pour le reste de leur vie quand ils vont passer le seuil de la maison puis qu'ils vont s'en aller vivre leur vie. Les parents qui avaient fait vos enfants puis qui avaient baissé vos culottes pour faire vos enfants, remettez-les pour en prendre la responsabilité d'en faire à leur tour des personnes, des adultes responsables et avec une bonne estime d'eux. Tu sais, cet homme-là, il a 42 ans, son fils en a 13. Le kid que le monsieur de 42 ans a, bon, on va mettre le mot agressé ou il est intervenu physiquement auprès d'eux, il a pas donné, il a réglé peut-être le cas de l'intimidateur, mais il a pas réglé le cas de son fils. Il a pas aidé son fils en faisant ça. La personne la plus importante, il pensait régler, aider son fils, mais il a ajouté à la nuisance, à mes yeux, à moi, de son fils. Il y aura des intimidateurs tant et aussi longtemps qu'il y aura des intimidés. C'est son rôle de père. Encore là, je ne peux pas vraiment juger quel rôle de père il a joué jusqu'à cet événement-là.
Ça, il y a des choses qu'on ne connaît pas dans la vie de cet homme-là.
Il y a des choses qu'on connaît pas, effectivement. Mais à un moment donné, c'est ton rôle, c'est notre rôle comme parents de donner les outils à nos enfants. C'est ce que j'ai fait aussi, tenter de faire à tout le moins avec mon fils, de donner les outils à nos enfants pour qu'eux se prennent en main, pour qu'eux prennent la responsabilité de ce qui se passe. Puis, à un moment donné, j'avais été en entrevue avec José Arsenault, puis Doc Mailloux, feu Doc Mailloux, puis j'avais donné mon point de vue, puis il avait terminé en disant « Bon, ben moi, je n'ai rien rajouté là-dessus, tu as tout dit ce que j'allais dire, le grand. »
Non, ben je pense qu'il voulait dire « C'est la faute à ta mère, finalement. » Non, c'est correct.
Non, mais j'aime mieux, sans d'aucune façon prôner la violence, évidemment, mais j'aime mieux, je pense que c'est plus facile de soigner la lèvre d'un enfant qui a décidé de prendre les choses en main à l'école puis de se battre avec l'intimidateur puis peut-être de recevoir une coupe de coups de poing lui aussi.
Mais ça revient à ce qu'on disait.
Que de travailler pendant des années à redonner l'estime à cet enfant-là qui s'est laissé faire.
Les gens forts, on dirait que c'est rendu une plaie pour la société.
Mm-hmm, ouais.
Alors que c'est le contraire. Tu sais, dans les années 80... Nos parents, qui étaient de véritables hommes des cavernes, disaient « Ben, si t'étais intimidé, défends-toi.
Mm-hmm. »
Aujourd'hui, un parent qui dit ça à son enfant, « Si t'es intimidé, défends-toi. » Oh boy!
Ouais.
Ce parent-là là, est un parent irresponsable qui prône la violence.
Ben, moi, ça va être 99% de mon message va être anti-violence. Mais à un moment donné, là, il faut que le pied se mette à terre ou le poing se mette à la bonne place. Puis encore là, comprenez-moi bien, j'ai dit 99,9% de mon éducation anti-intimidation n'est pas violente. Mais à un moment donné, ça fera. Le problème, c'est que c'est pas le kid qui l'a fait, c'est le père qui l'a fait. Puis je pense que le père, en le faisant, et je comprends sa frustration. Écoute, comme je te dis, mon fils est victime d'intimidation. Il y a des fois, les poings me serrent en tabarcelac.
C'est parce que tu souffres peut-être pas autant que ton fils, mais tu souffres différemment et tu souffres. T'sais, à un moment donné, t'as plus de ressources. Tu peux pas aller voir le jeune pour défendre ton gars. Fait que t'essaies d'expliquer à ton gars que parfois, ben s'il y a des intimidateurs, c'est parce qu'il y a des intimidés. Ton gars est un intimidé, puis il doit faire en sorte de trouver dans son bagage à outils des façons de faire pour s'en sortir, pour que cet intimidateur-là puisse disparaître de sa vie. À mes gars, moi, je leur ai parlé des pouvoirs d'association. Tu sais, on avait, il y avait un gars qui était dans la mauvaise classe. Il n'avait pas l'aide nécessaire pour son cursus scolaire. Il semblait avoir une vie qui était assez particulière, puis il était dans la même classe que mon plus vieux. Puis mon plus vieux me dit, « Papa, c'est parce qu'il attaque tout le monde, il nous frappe tout le temps, il nous fait des menaces et tout ça. » Puis je dis, « Mais, tu sais, Joshua, tu veux-tu le battre? » Il dit non. Je dis, « OK, qu'est-ce que tu veux faire? » Ben, je veux juste qu'il arrête de battre tout le monde, puis de temps en temps, mais qu'il arrête de me faire des gens bêtes et tout ça. Je dis, « Bien, parfait. Sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher les amis qui subissent les mêmes choses. Vous allez aller voir ce gars-là en gang pour lui dire que maintenant, c'est terminé, puis que la prochaine fois qu'il touchait à un gars de la gang, ben que ça allait être avec les 20 gars qu'il allait avoir à faire. » Exemple. Puis il me trouvait bizarre, mais ils l'ont fait.
Ouais.
Ils étaient 6-7, ils se sont pointés, puis le petit gars, il a eu peur. Ils n'ont pas touché, mais le petit gars, il a eu peur, puis il s'est dit, « OK, là, moi... J'étais plus gros, puis j'étais à un contre un. Là, il y en a 6 qui disent, « Hey,
ils sont plus
si
gros
tu
que moi,
nous touches, c'est fini. Là, tu vas toucher la gang au complet. » puis ça l'a cessé. Puis le jeune garçon, parce que dans le même temps, le jeune garçon a été changé de classe dans une classe un peu plus adaptée à ses comportements, puis ça l'a cessé. Mais la chance qu'on a eue que ça cesse.
Ouais.
Tu sais, parce que c'est une souffrance que tu reçois quand ton enfant dit « Papa, je me fais frapper à tous les jours. »
Non, non, c'est terrible, là. C'est terrible. Moi, ça me brise le cœur. Puis encore plus que je sais ce que je sais. J'étais de l'autre bord, moi, avant, quand j'étais jeune. Fait que je suis bien placé pour le savoir. Tu sais, là, tu viens de donner un exemple qui est dans la non-violence. Parfait. Essayons ça.
Le pouvoir d'association.
Un autre outil que je donnais à mon fils, c'est l'ignorance. Pas être ignorant, mais ignorer la personne. L'intimidateur, il cherche de l'attention sur lui. Si tu l'ignores, tabarcela qui va aller n'écœurer un autre.
Cherche l'attention pour les autres. Là. Qu'elle soit positive ou négative.
N'importe quoi. Moi, j'étais intimidateur parce que j'étais, écoute, plus pourri que ça en classe. Tu peux pas t'imaginer. Je comprends pas comment je faisais pour passer. D'après moi, il y a quelqu'un qui payait en arrière pour que je passe. Là. Mais j'étais pourri en classe. J'arrivais dans la cour de récréation. J'étais le plus grand, le plus gros. Tous les gars voulaient m'essayer. J'ai soigné tout. Fait que je suis devenu intimidateur comme ça. La seule place où je pouvais avoir une certaine reconnaissance, c'était dans le cours de récréation parce que je dropais les gants devant tout le monde puis je me battais. Puis je les soignais toutes.
C'était la seule place où tu pouvais te prouver en tant qu'enfant.
Exactement, exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai développé. Écoute, je suis pas fier de ça, là. J'ai même retrouvé, je pense que je t'avais déjà raconté ici, sur Facebook adulte, il y a pas longtemps, il y a peut-être 5-6 ans de ça, j'ai retrouvé, je me souviens des noms, 5 gars sur Facebook. Je suis certain que c'est les mêmes, là, que j'intimidais quand j'étais jeune. Il y en a 3, je leur ai écrit aux 5, il y en a 3 qui m'ont répondu. 2 par écrit, 1 autre par écrit, puis on a même fait un appel ensemble, lui puis moi. Puis j'ai dit, écoute, je suis rendu à 50 quelques années, là, j'ai le goût de m'excuser en tabarnouche parce que je t'ai fait quand t'étais jeune. Hey, Jean, ça fait 45 ans, 50 ans de ça, ça fait longtemps, ben pas 50 ans, mais en tout cas, fait un bout, là. Mais il dit, c'est sûr que c'était pas le fun. Mais écoute, vous aviez un peu raison, j'étais pas mal nerd, puis j'ai toujours été renfermé, moi. J'ai toujours été un grand fait, puis je suis encore aujourd'hui. Je suis marié, j'ai 2 enfants, je fais 750 000 par année, puis la job que je fais, là, j'ai pas besoin d'être sociable, moi. Puis je l'étais pas plus dans ce temps-là, je suis renfermé. Mais je le suis encore aujourd'hui. Je dis, ah oui, tu fais quoi? Il dit, je suis anesthésiste. Le gars fait 750 000 par année, il parle pas à personne.
Il les endort tous.
Puis il les endort tous. Il passe son temps à regarder du monde qui dort, lui, à s'assurer qu'il se réveille pas. Bon, on a rendu ça comique, mais c'est pas comique à la base. C'est pas comique pour les intimider. Mais comprenez que l'intimidateur, il n'est pas heureux, lui, non plus.
Okay. Mais la société, es-tu responsable de faire des adultes faibles?
Je pense que le comportement sociétal s'est enligné vers ça. Okay. Écoute,
je vais te dire quelque chose d'atroce, mais en même temps, pour faire avancer la discussion avec toi, parce que les discussions avancent constamment, puis on arrive avec certains constats, j'ai l'impression que les femmes ont pris une grande place dans la société, et avec raison, mais à un moment donné, ils nous ont demandé de raisonner comme eux. Alors qu'on n'est pas capable de raisonner comme eux. On n'est pas fait pareil.
Ben non, c'est sûr qu'on n'est pas fait pareil.
Puis on a essayé de s'adapter à ce que les femmes nous demandaient, puis on n'est juste pas capable. Au travers de ça, il y a peut-être une souffrance.
On est d'une différence fondamentale. J'ai une conférence là-dessus, le Homme 101. On va en parler aujourd'hui, justement. Il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. C'est clair, net, précis.
Tu sais, on chicoltaillait à l'école. Là. Les enseignants disaient « Arrêtez de vous battre ». Mais on se coltaillait pour le fun, genre. Mm-hmm. On était des petits gars. Puis il fallait arrêter de faire quelque chose qu'on adorait, puis on trouvait ça drôle, puis on jouait au roi de la montagne. Mais l'enseignante disait, vous allez vous blesser. Mais c'est pas grave.
Comment ça s'appelle, le ballon chasseur? Ballon chasseur. Je lisais un article il y a pas longtemps, ils ont chassé ça de la cour de récréation aux États-Unis.
Trop violent.
Trop violent, puis trop... Comme un outil à l'intimidation. Ah, il est là, mais il soignait le ballon. Voyons, on a tout reçu un ballon derrière de la tête dans ce jeu-là. On va là pour s'amuser, pour crier, pour rire, puis gagner un match. Puis si on le gagne pas, ben il faut apprendre de l'échec. Voyons,
mais est-ce que je me trompe quand je dis ça? Les femmes ont pris leur place dans la société, puis à un moment donné, ils ont dit, « Ouais, mais ces affaires-là, c'est trop masculin. C'est peut-être un peu toxique à la limite, puis on s'est peut-être oublié. »
Ben, c'est parce que, tu sais, le jeu de la pendule, là. La pendule a été d'un bord pendant un bon bout de temps. C'était toutes nous autres, les gars. On renait toutes. Les femmes étaient à la maison, faisaient des tartes. Là. Nous autres, on renait toutes. Puis là, les femmes sont arrivées sur le marché du travail, puis l'émancipation de la femme. Et comme tu dis, tant mieux, on vote tout oui pour ça, là. Mais ça nécessite un certain ajustement et des hommes et des femmes à vivre dans une société plus large que celle de « je prends toute la place puis tout reste dans ta cuisine ». Faut s'ajuster à ça à un moment donné.
C'est weird, là. Il y en a qui nous voient comme étant des ennemis puis il y en a d'autres qui nous voient comme des alliés. Je préfère jaser avec les femmes qui nous voient comme des alliés. J'étais dans le sud en voyage. On fait une belle croisière en passant.
Oui, oui, oui.
On était au gym, puis il y avait une dame qui était embarquée sur son tapis puis n'était pas capable de le faire fonctionner. Moi, j'étais sur le tapis à côté. Puis là, je me suis dit, je vais l'aider. J'arrête mon tapis, je débarque de mon tapis, je m'en vais l'aider. Et l'autre dame qui est à côté, elle dit un truc en anglais, puis en traduction française, maudite marde de mansplaining. Comme si moi, je voulais lui montrer à utiliser son tapis. Puis qu'elle était trop niaiseuse, mais elle a pas vu que moi, je voulais offrir mon aide, puis que je l'ai aidé, puis finalement, son tapis est parti. Elle me voyait comme un ennemi parce que je suis allé voir sa copine pour l'aider à partir son tapis. Mm-hmm. Je dis sa copine, je sais même pas s'il s'était parlé. Là. C'est weird, hein?
C'est l'autre extrême de la de la pendule. Là, ils ont leur façon de faire, on a notre façon de faire. Faut se retrouver dans le milieu. C'est un peu comme, justement, je pense, ma conférence Homme 101 sur les hommes, là, cette petite bête d'une simplicité déconcertante que nous sommes. Là. J'explique aux gens, de façon figurée, que nous, on est simples, ça ne veut pas dire que les femmes sont compliquées. Ceux qui disent que les femmes sont compliquées sont des idiots. Ils n'ont juste pas compris que les femmes sont fascinantes et changeantes. Et quand on veut s'unir ensemble, créer un couple, mettons un couple hétéro, l'homme, lui, c'est tellement simple que... Imagine un jeu, tu sais, un damier devant toi, là, OK? T'as une femme en face de toi, t'as un damier.
Un jeu de dames.
Nous, on joue aux dames. Les gars, on joue aux dames. C'est linéaire, ça avance par en avant. De temps en temps, ça peut aller en diagonale. Ça recule pas. C'est simple en tabarcelac jouer aux dames, là. Puis pendant que nous, on joue aux dames, dans notre relation avec la personne qui est en face de nous, mettons notre conjointe, elle joue aux échecs. C'est pas idiot comme jeu. C'est pas compliqué. C'est juste très, très changeant. Il n'y a pas une pièce qui fonctionne de la même façon. Donc, on essaye de bâtir un jeu ensemble où un joue aux échecs, un joue aux dames, puis l'autre joue aux échecs. Il faut arriver à comprendre le jeu de l'autre. Il faut que je comprenne comment ça marche, les échecs, donc comprendre le comportement d'une femme. Puis il faut que la femme comprenne mon jeu de dame, qu'elle comprenne le comportement des hommes. Puis qu'on se crée, les couples qui réussissent, c'est ceux qui se créent un troisième jeu avec un mix un peu de tout ça. De temps en temps, je vais aller jouer à tes dames, à tes échecs. De temps en temps, viens jouer à mes dames. Mais le plus souvent possible, essayons de jouer à notre jeu, à nous, où on se retrouve là-dedans. C'est ça la complexité d'un couple, d'arriver puis de faire un mix entre une femme et un homme. Puis je parlais un moment donné avec un de mes chums qui est gay. Puis en fait, on était une gang de gars, puis on parlait. Puis un des gars, il bitchait sur sa relation de couple avec sa blonde. Blablabla. Puis là, il se retourne et il dit, ça me tente, je pense que je t'avais d'aller jouer dans ton équipe, toi. Mon chum qui est gay, il dit, non, va pas penser que c'est plus facile. Puis tu sais, toi puis moi, ça va à pêche, là, ça va être simple. Ça va être simple d'abord. On va-tu pêcher au gars? On va pas pêcher au gars. On mange quoi? On mange du spaghetti. Enfin, c'est pas compliqué, là.
Non.
Mais vivre une vie de couple comme lui vivait avec son chum, il dit, non, nous autres, on est à moitié gars, moitié fille. Hein? Fait qu'il dit, ça rend pas ça plus facile. Yvon Dallaire, qui est décédé dernièrement,
ben oui.
Feu Yvon, son Dieu et son âme, et Yvon me disait, Jean, les couples les plus, pas dangereux, les plus violents que je reçois dans mon bureau, ce sont les couples de lesbiennes. Mais c'est le dernier couple que j'aurais pensé qui était violent, là. J'aurais pensé qu'il y en ait deux hétéros, deux... Non, c'est les couples de lesbiennes.
Psychologiquement et physiquement?
Dans les deux cas. Les deux cas. Même physiquement, il dit, ça se tire de la vaisselle, là. Il dit, bon, en partant, s'ils sont en bas de 50 ans puis qu'il y a encore des règles, bien, si ça tombe à peu près dans la même période, il dit, ça aide pas beaucoup un couple de lesbiennes. Mais faut ajuster ça, que ce soit gars-gars, fille-fille ou homme-femme, il faut trouver le jeu qui nous convient un et l'autre. Puis, il faut comprendre aussi que nos cerveaux ne sont pas faits de la même façon. On est différents. Nos cerveaux ne sont pas faits. Nous, les gars, là, on a une série de cases. On a plein de cases. Une case pour le sport, une case pour dormir, une case pour le sexe, une case pour nos chums, une case pour le hockey. Puis, on a une case vide que les femmes aimeraient bien ça avoir. Tu sais, quand ta blonde te dit, chérie, à quoi tu penses? Chérie, à quoi tu penses?
Ouais. Hein? T'es dans ta tête, tu dis,
Tu penses à rien. Non, on va dire, je pense à rien. Elle dit, non, tu peux pas penser. Oui. Oui, je pense à rien. Nous autres, on a une case où on peut aller, une petite chambre, là, la chambre du rien. Elle aimerait ça, les filles. Chérie, je peux-tu aller dans ta case? Non, tu vas vouloir mettre une plante puis mettre de la musique de Yanni là-dedans. Là.
Mais eux, ils n'ont pas de case. C'est vraiment...
Non, ils ont des cases. Nous, c'est une case à la fois. Tu fais soit ton sport, tu fais soit du sexe, tu travailles, tu t'entraînes, tu lis, tu c'est toutes des cases indépendantes. Tu en fais une à la fois. Tu en rouvres une, tu fermes, tu en rouvres, tu fermes, tu en rouvres, tu fermes. Les femmes ont toutes des cases aussi. Ils n'ont pas de cases vides, mais les femmes ont toutes la même, de façon générale, les mêmes cases, sauf que les autres sont toutes interreliées, là. La façon dont elle s'habille le matin, ça a un impact, comment elle va finir son 5 à 7 ou quand elle va aller au garage. Mais toutes les préoccupations, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils sont fascinantes et changeantes, les femmes. Toutes ces cases-là, là, c'est un ramassis de fils, là. Puis tout est interrelié. C'est un méchant challenge de faire marcher ces deux cerveaux-là qui fonctionnent complètement différents. Mais c'est à la base du couple. On essaye de faire des couples.
Parce que tu vois, moi, je voyais plus le cerveau de la femme comme un tout, puis nous autres, notre cerveau, il est séparé. Fait que c'est à peu près le même concept que tes cases, mais les filles ont tendance, parce que tu disais, sont interreliées, fait que ça rejoint un peu ce que je disais. Les filles ont tendance à avoir comme les émotions pour la job, c'est les mêmes émotions qu'à la maison.
C'est ça.
Si j'ai une chicane à la job, ben ça se peut qu'à la maison, ça aille un peu moins bien. Si j'ai une chicane à la maison, ça se peut qu'à la job, ça aille un peu moins bien. Tandis que les gars, on est capable de s'ostiner avec nos blondes, après ça, arriver à la job et être la plus belle journée de notre
Écoute,
vie.
Écoute, je te donne un exemple. Il y a quelques années de ça, il y a un de mes chums qui venait d'avoir son premier enfant et tout ça. Puis on partageait les mêmes bureaux. Je rentre au bureau, il est assis à son bureau, il fait absolument rien. Je suis un café sur son bureau. Hey, Jean, viens jaser. Et il dit, toi, t'en as eu des enfants? Il dit, on est bien en patins quand on rentre au bureau, hein? Parce que lui, il avait passé une matinée puis une nuit de fou, là. Mais là, lui, il avait fermé la case papa. Puis là, il était rentré dans sa case, je suis propriétaire d'entreprise. Puis je m'en viens relaxer dans mon entreprise. Fait que c'est deux cases complètement différentes. La femme, elle, c'est toute la journée là, qu'elle va passer avec le bébé, puis qu'elle va passer au chum qui revient, puis le souper, puis le... ça. Je pense qu'on est capable, nous autres, tu sais, un ordinateur, souvent, là, on ne ferme pas ça. Tu descends tes logiciels dans le bas, là, dans le bas de l'écran, là, Word, Excel, Facebook, puis tout ça. Puis souvent, on met ça sur pause, puis le lendemain, on rouvre le système. Les femmes, c'est ça, l'ordinateur ne ferme jamais. Nous autres, on le ferme de temps en temps.
Ça doit, mais on est tellement, tellement différents, comme tu le dis. Tu voulais nous parler de l'ADN des hommes.
Ouais.
C'est quoi ça, l'ADN des hommes?
Il faut que les femmes, tu sais, ben, dans ma conférence, l'objectif, quand j'ai créé cette conférence-là, c'est de dire aux femmes, arrêtez de parler des hommes entre vous, là, puis allez écouter un homme qui va vous parler des hommes. Pas qu'il va vous parler de Jean Nadeau, là. J'ai fait bien des lectures, j'avais même présenté ma conférence à Yvon Dallaire, pour lui dire, Yvon, ça a-tu du sens ce que je m'apprête à dire là? Et il dit oui. Et tu passes à la surface, là, tu vas pas dans le détail, mais ça a bien de l'allure, vas-y de l'avant avec ça. Fait que les femmes aimeraient toutes être en relation. Je suis convaincu, là. On remplit une salle de femmes, là, puis je dis, levez la main, les filles, celles qui aimeraient ça être avec un gars qui est drôle, qui est gentil, qui est humble, qui est fier, qui est romantique, qui est le fun, qui est sensible, qui a des belles mains, des belles épaules, des belles fesses, qui aime parler, puis qui fait bien l'amour, puis qui la supporte, puis qui la complète. Les filles vont toutes dire, oui, je veux ça. Dans ce temps-là, je leur réponds, oui, ce gars-là, il existe, mais il est en couple avec Sébastien. Parce que dans la vraie vie, un gars qui a tout ça, là, ça n'existe pas. Vous avez beau m'appeler et me dire « Oui, le mien. » Non. Il n'y a pas personne qui a tout ça. C'est les gars ensemble qui ont ça. Donc, mesdames, vous devez comprendre ceci. Dealer avec les hommes en comprenant la simplicité de comment ils pensent. Puis encore une fois, ça ne veut pas dire que je dis parce qu'on se dit que nous, on est simple, que vous, vous êtes compliqués. En comprenant la simplicité de comment on pense, ça va vous procurer plus souvent qu'autrement ce que vous recherchez dans une relation. Puis l'ADN des hommes, c'est pour ça qu'on se lève à tous les matins. Tous les matins, on recherche les trois choses suivantes. Puis c'est le même pour toi aujourd'hui, Yannick. Puis c'était le même pour l'homme de Cro-Magnon il y a plusieurs années. On cherche à déterminer qui on est, ce qu'on fait, puis combien on fait. On cherche à déterminer qui on est. C'est quoi notre titre? Comment on a obtenu et maintenant ce titre-là? Puis quels sont les résultats en mettant de l'avant ce titre-là? Ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on gagne. L'homme de Cro-Magnon, c'est un homme de Cro-Magnon. Il part à la chasse. Ça, c'est ce qu'il fait. Puis ce qu'il gagne, c'est un mammouth baptême. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Si votre homme n'est pas rendu là, ou votre homme prospect, ou votre homme, votre chum actuel, n'est pas sur ce X-là, n'a pas trouvé... n'a pas rejoint cet ADN-là, ne vit pas avec cet ADN-là, il n'y aura pas assez de temps pour vous. Fait que les femmes qui sont célibataires ou qui vont le devenir bientôt parce que pas mal tout le monde se divorce ou se sépare à un moment donné, là, Assurez-vous que le
ça
gars...
va, le positivisme, Jean Nadeau?
Non, non, mais regarde les statistiques, là. C'est ça, les statistiques.
C'est un couple sur deux.
Ben, c'est ça. Ouais. Fait que celles qui sont en couple actuellement, là, écoutez quand même aujourd'hui, là, parce que ça se peut que vous tombiez dans la statistique à un moment donné, là. Si votre homme n'est pas sur son X, s'il n'a pas déterminé qui il est, ce qu'il fait puis ce qu'il gagne, il n'y aura pas assez de temps pour vous.
Ouais.
L'ADN des hommes est excessivement simple, mais il faut le comprendre.
Puis les façons de réfléchir en situation de conflit sont aussi différentes. T'sais. J'ai pas fait d'études exhaustives là-dessus, mais ce que je constate par les partenaires que j'ai eus, les filles ont une tendance, quand il y a un conflit, à aller faire du social avec leurs amis, mm-hmm. puis leur parler du conflit, puis recevoir les conseils de leurs amis par rapport au conflit qu'ils sont en train de vivre avec leur conjoint. Puis le gars... Puis là, je parle pour moi, je ne veux pas parler pour les autres, mais nous autres, on a tendance à rentrer dans notre caverne, faire nos activités, on va jouer au hockey, on va aller se promener, on va aller courir, on va aller s'entraîner au gym, on va aller prendre une bière avec nos chums, mais on parlera probablement jamais du conflit. On va réfléchir, puis après ça, on va revenir avec nos propres réflexions sans avoir été, entre guillemets, tiens, entaché. Ouais. Par les réactions de nos chums par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Puis j'osais de ça avec ma conjointe, puis je disais, tu sais, advenant le cas où il y a un conflit entre toi et moi, puis que toi, tu as une perception, puis que tu t'en vas expliquer cette perception-là à tes amis, mais que tu utilises juste les moments où toi, tu parais bien dans l'histoire versus les moments où moi...
T'es fait.
Je t'ai un ci, un ça. Tes amis qui vont te donner des conseils vont te donner des conseils sur la compréhension qu'ils ont du conflit que toi, tu leur as expliqué à ta
ton
façon.
Ton image.
Et après ça, toi, tu reviens en me disant... Ah, ben,
ils m'ont dit ça.
Ils
sont d'accord avec moi.
Je suis pas la seule à le penser.
Hey, Yannick, la question qui tue. Quelle est la pire phrase qu'un gars peut entendre de la bouche de sa femme?
C'est une bonne question, mais je suis pas la seule à le penser. Ça me fait dire qu'elle a fait exactement ce que je viens de décrire.
La pire phrase, et ça résume ce que tu viens de dire, la pire phrase qu'un gars peut entendre de sa blonde, c'est « Chérie, il faut qu'on se parle. » Ah ben, saint prêtre. Hein? Christi qu'on haït ça. Ouais. Fait que c'est exactement ce que tu viens de dire, parce que la femme aime parler. L'homme s'en va dans sa caverne. Fait que viens pas me parler dans ma caverne, je veux pas. On n'est pas des parleux. Faisons un effort, les gars, pour parler un petit peu plus. Là. Je dis pas qu'on est comme ça et on changera jamais. Là. Mais la pire phrase qu'une femme peut dire à un homme, il faut qu'on se parle. Pourquoi? Parce que on a fait une gaffe, puis on le sait. Ou on a fait une gaffe, puis on le sait pas, qu'est-ce qu'elle va me sortir? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, c'est une des grandes différences, encore une fois, entre les hommes et les femmes. Puis, quand tu arrives à parler, puis que tu crées ce couple-là, puis que tu crées ce jeu-là que j'expliquais tout à l'heure, entre l'échec et l'échec, le jeu d'échec et le jeu de dames, bien, c'est là que tu trouves une façon d'arriver à te parler.
Parce que
qui va convenir à lui et à elle.
Oui, parce que la résolution de conflit, moi, ça a fait ça avec la mère de mes enfants. On se l'était dit, tu sais, parce que j'avais vu un peu comment ça fonctionnait, tu sais, les couples qui étaient ensemble depuis longtemps quand il y avait des résolutions de conflits, puis ça revirait tout le temps à la fille s'en va me mêler avec les autres, le gars il rentre dans sa caverne, puis j'avais dit à la mère de mes gars, tu sais, si jamais on a un conflit toi puis moi, assure-moi qu'on essaie de le régler toi puis moi en premier versus on va parler de notre conflit à tout le monde, parce que ça salope une réputation de couple puis pas à peu près quand ça commence à me mêler, puis elle a toujours respecté ça. Parce qu'elle comprenait, elle trouvait que c'était brillant d'essayer une première fois ensemble. Puis après ça, si on a besoin peut-être d'une ressource externe, demander à des professionnels, des gens qui sont neutres puis qui sont capables de te recevoir dans un bureau puis de dire « Bon, ben expliquez-moi votre version des faits, t'es à côté. » Fait que t'es capable de dire si elle dit exactement ce qui s'est passé ou elle dit exactement comme toi tu dirais. Puis après ça, tu répètes ou tu ajoutes ce que tu avais ajouté. Puis là, tu as le professionnel qui est là, qui est neutre et qui, lui, tu sais, à la lumière de ce que vous êtes en train de me dire, voici comment je vois ça.
Puis lui, c'est pas la première fois qu'il voit ça.
Voici
là.
Ce que vous pourriez essayer et tout ça. Ça, moi, je trouve des résolutions, je ne suis jamais rendu là, mais des résolutions de conflits comme ça, quand c'est vraiment comme, là, on est sur le bord de se séparer, je trouve ça génial. Mm-hmm. Mais quand les filles vont voir leurs amis de filles, les gars, vous allez passer au cash. Mm-hmm. Pas parce que vous n'êtes pas des bons gars, c'est parce que la version qu'elle va avoir racontée, c'est une version dans laquelle elle est l'héroïne. Mm-hmm.
Et soyons
spectaculaire.
Soyons honnêtes, puis de notre côté, de s'enfermer dans notre caverne
c'est pas mieux.
N'est pas nécessairement la solution non plus.
Puis on a notre propre vision des choses.
Exactement. Faut pas oublier que, tu sais, t'es en couple avec Françoise, là. Bien, Françoise, tu l'as choisie pour une raison, mon Rogatien.
Françoise, c'est plus que de ton âge, là.
Fait que t'as Françoise puis Rogatien, tu comprends? Eux autres, ils se sont choisis, puis ils ont décidé, ils s'aiment, ils sont en amour. Il y a un conflit qui arrive. Le conflit n'est pas Françoise. Le conflit n'est pas Rogatien. Le conflit vient s'installer entre les deux. C'est un filtre qui s'installe entre les deux. Avant de laisser ça s'envenimer puis que vous vous criez des bêtises, tassez le filtre. Là. Ayez la sagesse de tasser le filtre pendant 10 secondes, de regarder la personne, pas de filtre, là, direct dans les yeux, puis de vous rappeler que vous aimez cette personne-là, vous avez choisi cette personne-là. Rappelez-vous ça pendant 15-20 secondes, puis après ça, ramenez le filtre. Il y a bien souvent, tu sais, l'excuse qu'on va dire à la fin d'une engueulade, « Hey chérie, finalement, je m'excuse tantôt, là, j'ai levé le ton. » L'excuse qu'on va dire à la fin, là, on va peut-être la faire immédiatement, puis on va laisser tomber le conflit. Finalement, c'est des baguettes. Alors, ouais. On laisse tomber ça.
Hey, la retraite que j'ai faite avec toi m'a aidé sur plusieurs points, là, mais il y a un point que je voulais aborder avec toi, parce que c'est un lien un peu avec la résolution de conflits et tout ça. C'est trop souvent quand on est... Quand on s'obstine avec nos conjointes puis on est excédé, on peut dire des affaires des fois qui dépassent notre pensée, oui. Parce qu'on a l'impression d'être blessé puis on se dit « Garde, j'étais à ce point blessé que je vais la blesser encore plus. » Puis avec la retraite, tu nous as fait faire des exercices. Tu m'as fait écrire à la main mon sacrement, là. Avec un crayon.
Oui, ça existe encore, ça.
J'étais en calvaire. Mais je l'ai fait, je suis passé au travers. Puis je me suis dit « quel excellent moyen de communiquer. » Parce que tu parles dans un langage écrit, mais il n'y a personne qui te coupe. Mm-hmm. Quand tu as quelque chose à régler avec ton conjoint, ta conjointe, puis tu vois que quand vous vous jasez, vous vous dites à peu près n'importe quoi, le langage écrit, ça se fait. Mm-hmm. Tu sais, une belle lettre, là, voici comment je vois les choses, voici ce que j'aimerais qu'on améliore, voici ce que j'aimerais améliorer, moi, pour ma part. Puis après ça, ce sera à l'autre personne.
Mais relisant ta lettre, tu peux changer une coupe de patente,
ben
parce
oui.
que c'est pas assez précis. C'est trop tard, c'est pas vraiment ça que je veux dire. Tu te reprends un petit peu. Alors que quand... Oui, c'est sûr que quand t'es dans la communication verbale...
C'est une joute.
Là, c'est une joute. C'est ça, c'est une game, puis tu laisses pas finir l'autre. Fait que... Tu t'interviens avant que l'autre ait fini son point. Comment peux-tu avoir un jugement sur ce que je suis en train de dire si tu ne m'as pas laissé aller jusqu'au bout de mon point? Mais c'est ça, on s'interrompt souvent. Peut-être qu'une des façons de le faire, c'est de dire, OK, on a un conflit. Nous, là, quand on aura un conflit, là, on prend chacun notre bord, on prend une page, pas 25 pages, une page. Mettons sur papier ce qu'on pense, puis revoyons-nous après.
Ah, je trouve ça génial. Ouais. Ça faisait longtemps que je m'étais éloigné de l'écriture à la main. Mm-hmm. Puis avec l'exercice que tu nous avais fait faire, je l'avais fait, puis je me souviens que j'étais dans la chambre au monastère. Et je me suis dit, hein, ça fait tellement longtemps que j'ai écrit de cette façon-là. Puis tu sais, on faisait des exercices, c'était un peu sérieux, on creusait un peu dans notre passé et tout ça. Mais quel bel exercice à faire quand on est dans une résolution de conflit avec notre conjointe. Pour arrêter de dire un peu n'importe quoi parce qu'on est fâché, tu l'écris, tu lis. Tu réécris certains passages qui sont pas précis ou certains passages qui dépassent un peu les bornes, puis après ça, tu lui donnes cette lettre-là.
Mais assurez-vous d'en parler live après ça en personne,
ben
parce
oui.
que le problème, puis on le voit avec l'effet texto, là. On s'écrit des textos, puis on va écrire quelque chose qui n'a pas de ton, n'a pas d'intonation, puis qui va peut-être être mal perçu. Je te donne un exemple. Mettons que tu m'écris quelque chose, puis moi, je te réponds « Tu me niaises-tu? » C'est ça, les mots. « Tu me niaises-tu? » Tu vas peut-être dire « Hé, t'es en tabaslac, là. » Parce que toi, tu vas l'entendre comme « Tu me niaises-tu? » Puis si tu avais été devant moi, ça aurait peut-être été dit « Tu me niaises-tu? » Ouais. C'est complètement différent. C'est deux contextes. Fait que si vous êtes pour faire cet exercice-là, de vous arrêter, de dire « On l'a dit qu'on ferait ça. Là, je t'en tabaslac. Tu l'es toi aussi. Va-t'en dans ton bar. On va écrire chacun notre page, puis on se revoit dans une demi-heure, dans une heure. » Puis là, vous échangez ensemble. Parce que si tu lis ta lettre devant elle, tu vas la donner l'intonation que tu as écrit. Alors que quand on s'envoie des textos, bien souvent, ça alimente le conflit parce que tu l'as pas, ce ton-là.
Je sais que c'est pas de ton âge, Jean, mais il faut juste que tu ajoutes un lol après.
Oui, tu vas me sourire.
Elle va comprendre.
C'est pas de ton âge.
Un lol. On sait que c'est pas de ton âge, Jean Nadeau. Hey, on va faire une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on est avec le conférencier Jean Nadeau. Je sais que vous l'appréciez parce qu'il y a toujours énormément de messages qui rentrent à la station. Et c'est encore une fois le cas. Puis je les lis toutes. Je vous réponds pas toujours, mais pour la plupart du temps, quand vous nous écrivez à la station, je les lis, puis merci de le faire. Surtout quand vous dites « Hey, on aimerait ça qu'ils reviennent plus souvent », ben c'est le cas de Jean Nadeau. J'essaie d'abuser de son temps le plus souvent possible. On revient tout de suite. Touchez pas à ce piton-là.
Marceau, le soir. Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock.
On est avec le conférencier Jean Nadeau. Ce soir, on parle des différences entre les hommes et les femmes. Puis en début d'émission, je parlais avec Jean des hommes forts, des femmes fortes. On dirait que c'est mal perçu maintenant, en 2024, d'être une personne forte qui dit ce qu'elle a à dire. Parce qu'on considère que ces gens-là sont, ils peuvent même être toxiques à la limite et peut-être même être des intimidateurs, alors qu'eux en eux disent juste les choses telles qu'elles devraient être dites. Drôle de société dans laquelle on vit présentement, Jean. Puis moi, ce que j'aime, c'est des gens comme toi, des gens que j'entends régulièrement autour de moi qui continuent de se tenir debout, des hommes et des femmes qui disent « c'est pas vrai qu'on va se plier aux demandes des mamères qui nous demandent tout le temps de mettre un petit peu de gants blancs quand on explique des affaires ». Quand il y a de l'incompétence, on doit le dire, que ce soit en politique ou que ce soit sur nos, dans notre travail. Mais il y a une façon de le dire aussi, mais il faut respecter ces hommes et ces femmes fortes-là parce que c'est eux qui tiennent notre société à bout de bras.
Pour rebondir là-dessus, je pense que, tu sais, est-ce que c'est du courage? D'avoir le courage de s'exprimer, ça demande une certaine confiance en soi. Mais il faut faire attention, avoir confiance en soi... Donc, avoir le courage de dire ce qu'on pense parce qu'on a confiance en soi, c'est une qualité. C'est une qualité d'avoir confiance en soi. Mais il faut faire attention, des fois, nos qualités amenées à un extrême peuvent devenir un défaut phénoménal. La confiance en soi amenée à un extrême devient de l'arrogance. Donc, de s'exprimer comme je le fais, c'est parce que j'ai confiance en mon propos, sinon je ne le dirais pas. Mais pour certaines personnes qui vivent dans le monde de moumoune qu'on est actuellement puis de politiquement correct, bien souvent, mon propos va être perçu comme de l'arrogance.
Mm-hmm. Alors, je sais pas ça.
Et je suis très sans... Ben, peut-être que des fois, je le suis aussi, là. Tu sais, je suis un être parfaitement imparfait, mais je tente de demeurer très sensible à ça, de donner mon point de vue de façon confiante, mais pas dans l'arrogance.
Tu sais, moi, je suis un observateur. Et là, Denis Coderre veut revenir dans l'actualité. Il veut se relancer en politique. Va probablement devenir chef du Parti libéral du Québec. Et ce qu'on reproche à Coderre, c'est qu'il est fort en gueule, il est hautain, il est prétentieux, il est arrogant. Puis lui, ben tout de suite, quand il a décidé de revenir dans les médias suite à son ACV, il a dit, il y a des choses sur lesquelles je vais travailler, mon arrogance, entre autres, et tout ça. Tu sais, moi, je... Si Denis Coderre avait pas eu cette personnalité-là, tu sais quoi, on n'aurait probablement jamais entendu parler. Mm-hmm. Puis j'ai réalisé ça peut-être tard dans ma vie, mais Denise Bombardier, je pense que ça fait la deuxième fois que je t'en parle d'ailleurs, Denise Bombardier avait accordé une entrevue il y a de ça quelques années, si ce n'est pas quelques décennies, puis l'entrevue est disponible sur YouTube, et on lui parlait de son ton hautain, de son arrogance, de son mépris envers certaines choses, puis elle avait dit à l'intervieweur, si je n'étais pas comme ça, monsieur, je ne serais pas devant vous.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait.
Hey, ça m'a... Écoute, j'étais sur mon ordinateur, je me suis dit, c'est tellement vrai. Quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui n'est pas sûr de ses affaires, t'as pas tendance à y faire confiance.
Mm-hmm. 99% des gens qui... J'ai pas fait de stats là-dessus, là, je lance ça comme ça. La majorité, tiens, la très grande majorité des gens qui voient mes propos émis avec confiance, qui voient ça comme de l'arrogance, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils jalousent la confiance de l'autre. Fait qu'ils transforment ça en arrogance. Ils mettent tout de suite ça. Ils testent un arrogant. Ils pensent qu'il y a la vérité absolue. Si tu savais le nombre de capsules vidéo que j'ai fait en commençant par dire aux gens, je vous partage mon opinion. C'est pas la vérité absolue. Je vous partage mon opinion pour que vous y pensiez puis que vous fassiez vous-même une opinion. Ben attends, c'est foutu que je le dise aux trois mots.
Mais si t'avais pas eu d'ego, tu te serais jamais pointé comme conférencier? Ça prend un certain ego de se présenter devant les gens.
Ça prend un ego, ça prend surtout quelqu'un qui passe par-dessus le complexe de déranger les gens. Le syndrome de l'imposteur.
Hey,
je suis qui, moi, pour monter sur une scène? Exact. Écoute, parle aux gens dans ma famille, là. On va pas très loin. Mmh. Parle aux gens dans ma famille, là. Ce sont les mieux placés pour dire, Jean, sur une scène, à dire aux gens comment vivre leur vie. Jean, écrire des livres. Voyons donc, C'est quoi cette histoire-là? Je suis pas parfait. Pas parce que je monte sur une scène que je suis parfait. Ouais. Je me suis juste fait une idée, une opinion, une pensée, une façon de penser la vie basée sur mes stupidités à moi, sur mes erreurs à moi, ce que j'en ai appris. Et je partage ça avec le monde. Ils en font ce qu'ils en voudront.
Mais ça, c'est la proximité, Jean. Tu sais, moi, j'avais regardé un écrit en psychologie puis qui mentionnait que, tu sais, un parent qui va expliquer quelque chose à son enfant n'aura pas nécessairement l'intention d'appliquer ce que le parent lui dit.
Fait le dire par quelqu'un d'autre, il va le faire.
Mais si l'instructeur du club de soccer lui dit exactement dans les mêmes mots ce que le parent lui a dit, il va l'exécuter. Mmh. Les gens proches de nous n'ont pas tendance à nous voir tel qu'on est réellement.
Parce qu'on est impliqué émotionnellement, ben, nous ouais, autres, exact. Quand on le dit. Le psychologue, il est pas le prof puis l'instructeur de basket, il est pas impliqué émotionnellement avec le kid, là.
Non, exact. Les besoins des hommes en 2024, c'est quoi, selon
le premier, d'après toi, c'est quoi? Mettons, je te pose la question.
Ça
les
a
trois,
changé tellement.
Les trois principaux, selon toi, c'est quoi?
Pour moi ou pour les hommes en général?
Les hommes en général, mettons. On va voir peut-être que tu rentres là-dedans, là. Hey, d'après toi.
J'essaie de pas dire de niaiseries, là. J'essaie d'avoir de l'air intelligent. les premiers besoins...
Trois principaux. Il y en a d'autres, là, mais les trois principaux.
Hey, donne-moi donc un exemple.
Sexe.
C'est ce que j'allais dire en premier. Je voulais pas avoir de...
Non, 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 mais, sais, mais c'est le premier qui sort tout le temps en
je
premier.
Je sais, mais je voulais pas avoir de netardé mental, okay. Fait que je l'ai
ben
pas
non,
sorti.
Ben non, il y a rien de mal là-dedans que d'avoir besoin de sexe.
Sexe, ça amour. Est... Amour. Sexe, amour. Je dirais les deux.
OK. Le premier dont je vais te... Ils sont pas dans l'ordre. J'ai déjà mentionné sexe. Je vais le garder en troisième. Un des premiers besoins, un des trois principaux besoins des hommes, c'est le soutien et l'admiration. Tu sais, quand je te dis, là, on se lève à tous les matins, nous autres, puis on s'en va dans l'arène de boxe, là, pour aller vivre ce qu'on est, ce qu'on fait, puis ce qu'on gagne, là, quand on revient à la maison, là, on a le goût de se sentir le roi du monde. On veut avoir l'admiration de notre blonde, de notre conjointe. On veut avoir son soutien. Puis les filles... Que vous donniez le soutien et de l'admiration à votre homme, ça ne diminue pas votre importance à vous dans le couple. Là. Hey, je ne donnerai pas trop d'admiration. Moi, je vais passer pour quoi? La rien de rien.
Fait que c'est le soutien et l'admiration.
On veut être soutenu. On veut avoir le soutien de notre blonde.
Pis ça nous aide à progresser, Jean?
C'est un de nos besoins, définitivement.
Okay. Tu sais quoi? Je fais un parallèle avec les psychologues sportifs. Parce que j'ai toujours pensé, moi, qu'un psychologue, t'allais voir un psychologue quand ça allait mal, puis il essayait de te démontrer des techniques pour qu'un jour ça aille bien. Mais à un moment donné, j'ai appris que les athlètes olympiques, les grands athlètes olympiques de ce monde, ont des psychologues sportifs. Mais c'est pas parce que ça va mal dans leur vie, c'est pour les aider à progresser encore plus. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose là-dedans, soutien et admiration. Ouais, c'est que le psychologue sportif est à côté de toi. Ouais. Puis il t'épaule, puis peut-être pas, il va peut-être pas jusqu'à l'admiration, mais il te lance des félicitations quand ça va bien, puis t'applique les choses.
Une des choses que j'ai remarqué quand je donnais cette conférence-là, je voyais souvent les femmes réagir. Ouais, mais nous autres aussi. Ça peut, là. Moi, je donne une conférence à ces hommes. Si vous voulez faire une conférence à ces femmes, vous en ferez une. Ouais. Je vous dis pas que vous avez pas ça, vous autres, là, mais je vous dis que nous, on a ça. Pas nécessairement dans l'ordre, mais une des trois premières choses qu'on a besoin, le soutien et l'admiration. Deuxième chose, on a besoin de loyauté. Nous, là, l'amour qu'on veut ressentir des femmes, là, ça passe à travers la loyauté. Puis les filles, sauf pour le père de vos enfants, là, la loyauté que vous conservez à avoir avec vos ex, là, ça s'appelle des ex pour une raison, c'est des ex. Bye, ciao. Oh! Sauf peut-être pour le père de vos enfants. Votre amour, les filles, est plus émotionnel. Le nôtre, il est plus relationnel. Tu parlais d'égocentrique. Notre amour est plus écocentrique, nous autres. On veut que vous soyez loyal à nous. Si on sent que vous êtes déloyal à nous, entre autres par rapport aux ex, ça nous chicote, ça. On n'aime pas ça. La loyauté, pour nous, c'est le synonyme de l'amour dans un couple.
OK.
Puis le troisième, ben c'est le sexe. Les filles, enlevez-nous, jetez notre plus vieux T-shirt, enlevez-nous nos sandales, la calotte des Nordiques, mettez notre télécommande dans le broyeur, faites tout ce que vous voulez, mais ne nous enlevez pas le bonbon ultime. Pour nous, les gars, on a besoin d'être physiquement engagés avec la femme qu'on aime, puis ça part à travers le sexe. Pas juste le sexe, ça peut être juste des câlins, c'est correct, mais à un moment donné, il faut qu'il arrive quelque chose.
Les gars, ils montrent à leur blonde comment quand ils les aiment. C'est quoi les formes qu'on peut appliquer pour démontrer à nos conjointes qu'on les aime?
Encore là, je résume ça à trois choses. Il y en a d'autres, mais je résume ça à trois choses. Premièrement, de le proclamer. Proclamer haut et fort que notre blonde, elle, là, c'est ma blonde. Fait que si votre chum, les filles qui est à l'écoute, si votre chum vous présente, « Hey, je te présente mon ami. Hey, je te présente Ginette. » Ou « Je te présente... » ou « Il vous présente pas, tout simplement. »
Il y a un flag, là.
Partez à court.
Ouais.
Partez à course. L'homme qui est fier de sa blonde puis qui est fier d'être en couple, d'être en union avec elle, va la présenter. « Je te présente Christine, mon amoureuse. » Puis habituellement, on va le dire assez fort pour que tous les gars autour l'entendent.
Oh boy!
Touche pas à ça.
C'est un mâle dominant, genre.
Touche pas à ça.
Ah ouais.
C'est ma blonde. Donc, première chose, on le proclame. Deuxième chose, on se veut pourvoyeur. C'est sûr que dans le temps, on parlait des femmes il y a plusieurs années. Être pourvoyeur, c'est d'aller gagner notre paye pour venir à la maison pour payer les pâtes à pizza puis les pâtes à tarte. C'est demeuré dans notre ADN, ça, mais on veut se sentir utile, on veut sentir qu'on est le pourvoyeur, on est celui que vous allez aller voir si vous avez des besoins. On veut être votre go-to guy. Ma blonde, elle sait, s'il y a un problème électrique chez eux, là, c'est pas moi qui va le régler. Je veux qu'elle me le demande en premier pareil.
Je comprends tellement ce que tu ressens. Ouais.
D'un coup que... Puis il y a bien des affaires là, que je ne suis pas capable de faire. Viens me voir en premier. Parce que si j'apprends que tu es allé en voir un autre, sans m'en avoir parlé d'avance, j'aimerais pas ça.
Ah,
on veut être le pourvoyeur.
Même là. Moi, je me souviens d'un épisode où j'essayais de monter un meuble IKEA, Jean. Pis,
c'est pire l'électricité.
Ma blonde est en arrière de moi. Puis là, je suis, il fait chaud. Puis là, je comprends rien au plan qui a été dessiné par un enfant d'un an et demi. J'ai des vis que je comprends pas. Et elle arrive en arrière de moi. Puis elle dit, veux-tu que j'appelle mon père? Et tabarde. C'est ça, là. Écoute. Ouais.
Tu l'as redémonté puis tu l'as recommencé.
J'ai dit, toi, là, je vais te priver de sexe pendant 5 ans.
Hey, il faut que je revienne sur la question du sexe tantôt.
Ça a fini 5 minutes.
Troisième chose que les hommes, de la façon dont les hommes proclament leur amour, c'est qu'ils nous protègent.
Ouais.
OK, là, c'est pas une question là, du gros matamor qui veut se battre tout le temps, parce que les femmes de nos jours, ils sont capables de se défendre pendant un bon bout
c'est
de
le
temps.
Territoire.
Mais à un moment donné, là, quand c'est assez, puis ça se peut que le poing nous ferme. Trois façons dont les hommes présentent leur amour ou déploient leur amour. Ils le proclament, ils se veulent, ils demeurent pourvoyeurs et ils vous protègent.
OK. Ça, la majorité des hommes que tu as côtoyés cautionnent tes propos.
La majorité des hommes que j'ai côtoyés, la majorité des livres que j'ai lus, j'ai eu le blessing de Yvon Dallaire. C'est pas juste ça, mais c'est les principaux, les principaux de grande ligne. Puis lâchez-moi le pompon, là. Ouais, mais Jean, toi, t'as 61 ans, c'est de ton temps à toi. C'est même depuis l'âge de Cro-Magnon, baptême.
Les filles t'ont dit quoi?
De me calmer le pompon?
Ah, OK, bon, c'est correct.
Hey, juste revenir sur la question du sexe, puis ça va peut-être amener au prochain sujet.
Oui.
De l'admiration, je peux en avoir de mes chums. De la loyauté, je peux en avoir de mes chums. Dans mon cas, à moi, du sexe, je peux pas en avoir de mes chums.
Non.
Fait que si j'en ai pas, ça se peut que j'aille ailleurs.
Oh boy, l'infidélité des
hommes. Pourquoi les hommes sont infidèles?
Oui, pourquoi?
Premièrement, ce que je vais vous dire dans les prochains 5 points que j'ai à partager avec vous ne cautionne aucunement l'action d'être infidèle. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est correct d'être infidèle. Ça vous l'explique. Pourquoi les hommes sont infidèles? Premièrement, première raison pour laquelle les hommes sont infidèles, ils sont capables. Ils sont capables, eux autres, d'aller régler ce besoin physique-là qu'ils ont, puis de retourner à la maison auprès de celle
qu'ils
proclament comme étant leur blonde, qui protège, puis pour laquelle ils sont pourvoyeurs.
Ils sont capables facilement de séparer amour et sexe.
Exactement.
Okay. Ce que les filles, parfois, sont capables de faire, mais un peu plus difficilement.
Un peu plus difficile. Peut-être une fois avec la même personne, à partir de la deuxième, troisième fois, là, les sentiments commencent à s'embarquer.
Okay.
Deuxième chose, pourquoi les hommes sont infidèles, ils pensent qu'ils ne se feront jamais prendre.
Oh.
Tous les hommes sont certains à 100% qu'ils ne se feront pas pogner. 95% se font pogner. Puis quand ils se font pogner, ils nient quand même.
Même devant le fait accompli.
Même devant le fait accompli.
Mais ça dépend tout le temps, c'est quoi une infidélité?
Ah oui, là, il faudrait définir
parce
l'infidélité.
Parce qu'il y en a qui vont dire, un flirt dans une entreprise, c'est une infidélité alors qu'il n'y a pas eu d'échange d'ADN, il n'y a pas eu de souper seul à seul. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, une infidélité, c'est la couchette. Mm-hmm. Dès qu'il y a eu une pénétration, ouais, une fellation, c'est... Bon, Bill Clinton ne serait pas d'accord avec
nous. « I
didn't
have sex with that woman. » Mais tu sais, il y en a même qui disent que la masturbation est une infidélité parce qu'on part dans notre tête avec nos petits scénarios.
Hey, ça,
si notre blonde se trouve à pas être dans notre scénario ou notre chum, ben là, je suis en train d'être infidèle.
Ouais,
là,
ça va être arriéré un peu, là, je m'excuse.
Ouais, mais il y en a.
Un de mes chums m'a dit, ma blonde, elle m'a pété les plombs parce que je regardais des filles blondes sur Pornhub.
Puis elle est pas blonde.
Elle est brune. Puis elle dit, c'est quoi, tu veux une blonde?
Ouais, c'est ça.
C'est fou, hein? Alors que ça n'a aucun lien. Là.
Il y a peut-être une raison dans sa tête, mais peut-être pas nécessairement parce qu'il va avoir une blonde. Troisième raison pour laquelle les hommes sont infidèles, ils se cherchent encore. Ils n'ont pas trouvé... Ils n'ont pas terminé, ils n'ont peut-être même pas encore entamé leur quête de trouver leur ADN, de vivre leur ADN, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils gagnent. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont essayer? Leur hommerie, elle va passer dans d'autres choses, puis ça va être dans le sexe. Quatrième raison, c'est celle que quand je disais dans ma conférence, toutes les filles ils levaient quasiment la main. Nous autres non plus, nous autres non plus. C'est plus comme avant. Quatrième raison pour laquelle les hommes trichent, c'est plus comme avant. Au début, là. Ah, t'sais, au début,
parce qu'au début, c'est très intense.
Au début, tout le monde, le gars est prêt à tout. C'est la le femme Kama est prête à tout. Ouais. La femme dit, ah oui, ça, ah oh, oui, moi je fais ça, ça, ah oh, oui, moi je fais ça, ça. Puis à maintenant, elle dit, non, ça je fais plus ça, ça goûte pas bon. Ça je fais plus ça, ça fait mal. Ah. Oh, non, c'est... non, je fais, non, okay. Non. Fait que c'est plus comme avant. Je comprends les filles que c'est la même chose pour vous autres. Puis la cinquième est la plus banale, la plus niaiseuse, mais elle est vraie. Il y en a toujours une qui va dire oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À 3 heures du matin, là, au bord du bar, là, celle qui n'a pas trouvé d'autre, elle va te dire oui.
Ouais, tu vas avoir besoin de bodyguard en sortant de la station.
Mais c'est ça. Mais c'est, ce sont des faits. Mais ça ne fait pas en sorte. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis pour ça puis que je vous dis alléluia, les gars, vous avez carte blanche maintenant, allez tromper vos filles parce que maintenant vous avez 5 raisons.
Non, tu informes les gens de pourquoi les gens se trompent.
Exactement. Okay. Exactement. Puis. De plus en plus, les femmes trompent les hommes.
Exact.
Puis tu sais, les hommes, ils trompent pas des femmes avec des planches à repasser, là. Ils trompent leur femme avec une autre femme, là. Puis des fois, j'ai un de mes chums gays qui me dit « La majorité des aventures d'un soir que j'ai eues, c'était avec des hommes hétéros. » Fait qu'il y a des hommes qui trompent leur femme avec des gars juste pour essayer.
Des curieux!
Puis il y a de plus en plus de femmes qui trompent leur homme aussi.
Eh bien... Cela dit, c'était à Saint-Valentin hier. Fait qu'on a mis à marre d'asseoir.
Non, mais écoutez, ben, vous réécouterez ça, les filles qui étaient célibataires hier à Saint-Valentin, si vous voulez pas l'être l'an prochain, là. Réécoutez peut-être de façon plus attentionnée ce que j'ai partagé avec vous. Puis au lieu de vous en offusquer, réfléchissez-y.
Jean Nadeau, on peut te suivre comment, puis on peut avoir accès comment à toi?
Le principal outil de communication pour moi ou de visuel, c'est sur Facebook. Faites attention, trouvez le bon parce que j'ai un Christi de paquet de monde qui se plaise à copier mon site, à ma page, Jean Nadeau. Donc oui, vous trouvez moi, vous allez voir, il y a tellement de publications, vous allez bien voir que c'est moi. Il y a jeannadeau.net également, mon site web.
All right, merci beaucoup d'être passé.
Ça fait plaisir.
On se rejase prochainement, mon ami. Juste de passer une excellente fin de soirée. Max s'en vient dans les prochaines secondes. Puis moi, ben, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dans Marceau le midi. Salut, bye-bye.
Marceau le soir. Écoute ton médecin.